Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Face à l'inflation, le gouvernement français propose de plafonner la hausse des loyers à 3,5% maximum pendant un an. Un dispositif nommé bouclier loyer. Yann Brossa, maire adjoint de Paris en charge du logement, de l'hébergement d'urgence et de la protection des réfugiés et porte-parole du Parti communiste, reproche au gouvernement de ne pas aborder le principal problème qui est la question des salaires. Yann Brossa sera l'un de nos invités. Israël augmente le nombre de permis d'entrée sur son territoire pour les Palestiniens de Gaza. Le pays qui impose un blocus à l'enclave palestinienne depuis 2007. Nous y reviendrons avec Ziad Medouk, directeur du département de français à l'université Al-Aqsa de Gaza et coordinateur du centre de la paix de Gaza. L'Union africaine demande une enquête après la mort de 37 candidats à l'exil suite à une tentative de passage dans l'enclave espagnole de Melilla au nord du Maroc. À l'approche du 60e anniversaire de la proclamation de l'indépendance de l'Algérie, le 5 juillet prochain, regard sur un ouvrage de l'ALN à l'ANP, La construction de l'armée algérienne 1954-1991 aux éditions de la Sorbonne. Nous écouterons son auteur, Safia Areski. La fin du procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis. Le verdict est attendu mercredi prochain. Ces mesures prises par le gouvernement en matière de pouvoir d'achat sont très insuffisantes. Le gouvernement n'aborde pas le principal problème qui est la question des salaires. Propos signé Yann Brossa, maire adjoint de Paris, en charge du logement, de l'hébergement d'urgence et de la protection des réfugiés et porte-parole du Parti communiste. Il s'exprime après l'annonce du gouvernement qui entend plafonner la hausse des loyers à 3,5% maximum pendant un an. Un dispositif nommé bouclier loyer. Entretien avec Yann Brossa.
Ce bouclier est très largement percé. Le gouvernement parle d'un bouclier loyer. La réalité, c'est qu'il permet aux propriétaires d'augmenter les loyers de 3,5%. 3,5% d'augmentation de loyer, c'est considérable. Et on a des gens qui sont déjà pris à la gorge par l'augmentation des prix dans tous les domaines. Et en plus de cela, ils vont voir leur loyer augmenter de 3,5% si le propriétaire va jusqu'au maximum autorisé. Et donc, c'est une décision qui, de mon point de vue, n'est pas bonne du tout. Le gouvernement aurait pu limiter bien davantage la hausse. Ça n'est pas le choix qu'il a fait, sous la pression d'un certain nombre de lobbies, et je le regrette.
Plus globalement, quel regard portez-vous sur le projet de loi pouvoir d'achat qui doit être voté cet été par le Parlement ?
De ce qu'on en sait pour l'instant, ces mesures prises par le gouvernement en matière de pouvoir d'achat sont très très insuffisantes. On a une inflation qui pourrait dépasser les 6%, on a une explosion des prix de l'alimentation, une explosion des prix de l'énergie, et pour l'instant, on a des propositions qui sont très en deçà de ceux dont nous aurions besoin. Et puis surtout, le gouvernement n'aborde pas le principal problème, qui est la question des salaires, qui est la nécessité de mieux rémunérer le travail. Si on n'augmente pas les salaires, si on ne permet pas d'augmenter les revenus des familles, inévitablement, on aura un pouvoir d'achat qui va décliner, a fortiori dans un contexte d'inflation.
Le gouvernement qui entend revaloriser les aides personnalisées au logement, les APL, de 3,5% au 1er juillet prochain, c'est insuffisant pour vous ?
Oui, c'est très insuffisant. L'augmentation de l'APL qui est annoncée à grand renfort de communication par le gouvernement, c'est 168 millions d'euros. Dans les 5 dernières années, le gouvernement a baissé les APL de 15 milliards d'euros. Autrement dit, avec le gouvernement, la recette est simple, je te prends 100, je te rends 1 et je te demande en plus de dire merci. Tout ça est quand même un peu hallucinant. La réalité, c'est que le gouvernement a énormément baissé les APL. Il en rend un petit bout aujourd'hui, mais tout cela est loin de faire la maille.
On l'entend, vous soutenez les différentes associations qui appellent notamment à geler les loyers. C'est une mesure indispensable pour vous aujourd'hui face à l'inflation ?
Oui, je pense qu'on aurait aujourd'hui besoin de geler les loyers. Dans le parc social, il faudrait qu'il y ait une compensation de la part de l'État. Mais dans le parc privé, bien sûr, cela pourrait se faire. Il n'y a aucune raison que les loyers augmentent de manière exponentielle, comme le prévoit le gouvernement, avec cette augmentation permise de 3,5%, ce qui est considérable pour des familles qui ont des petits revenus.
L'encadrement des loyers pourrait-il constituer une forme de levier ?
Oui, bien sûr, on a besoin d'encadrer les loyers. On voit bien qu'aujourd'hui, si on laisse faire le marché, on a des prix qui sont totalement incompatibles avec les revenus des ménages. On le voit dans toutes nos grandes métropoles, dans celles où le marché du logement est tendu. C'est la raison pour laquelle à Paris, nous nous sommes battus pour mettre en place l'encadrement des loyers. C'est le cas depuis 2 ans et c'est ce qui nous a d'ailleurs permis un assagissement du niveau des loyers. Néanmoins, j'alerte sur un point, c'est que si on veut que l'encadrement des loyers fonctionne, il faut des contrôles et il faut des sanctions lorsque les propriétaires ne respectent pas l'encadrement des loyers. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je me suis battu pour que Paris, la ville de Paris, récupère la compétence de contrôle et de sanctions. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était le préfet qui était censé prononcer des sanctions et il en prononçait trop peu. Et à partir de l'automne, c'est la ville de Paris qui pourra effectuer ces contrôles. Ça me paraît indispensable parce que pour qu'une loi soit respectée, il faut des contrôles et il faut des sanctions pour ceux qui ne la respectent pas.
Aujourd'hui, cette loi n'est pour le moment pas suffisamment respectée. Vous voyez beaucoup de logements qui sont au-dessus des barèmes fixés.
Très concrètement, à Paris aujourd'hui, un tiers des propriétaires ne respectent pas l'encadrement des loyers. C'est mieux que l'an dernier où il y en avait encore davantage, mais ça reste trop et ça concerne notamment les petites surfaces, celles qui sont occupées par les familles qui ont les plus petits revenus. Donc c'est extrêmement injuste et c'est la raison pour laquelle il nous paraît indispensable de serrer la vis et de sanctionner les propriétaires qui ne respectent pas l'encadrement des loyers. Lorsque vous êtes automobiliste et que vous dépassez les vitesses autorisées sur l'autoroute, vous avez une amende. Ben, ça doit être exactement la même chose lorsque vous êtes propriétaire et que vous enfreignez la loi sur l'encadrement des loyers.
Yann Brossa, maire adjoint de Paris en charge du logement, de l'hébergement d'urgence et de la protection des réfugiés et porte-parole du Parti communiste. L'Union africaine demande une enquête après le lourd bilan suite à la tentative de passage de près de 2000 clandestins dans l'enclave espagnole de Melilla au nord du Maroc. Au moins 37 migrants ont été tués selon les ONG. C'est de très loin le bilan le plus meurtrier jamais enregistré lors des nombreuses tentatives de migrants subsahariens de pénétrer à Melilla et dans l'autre enclave espagnole de Ceuta. Les deux enclaves sont les seules frontières de l'Union européenne avec le continent africain. Le chef de la commission de l'Union africaine dénonce le traitement violent et dégradant de migrants africains. La journée de dimanche marquait le début du tournoi de football aux Jeux méditerranéens d'Oran. La France l'a emporté 1-0 face au Maroc, un match animé qui a rapidement tourné à l'avantage des Bleuets. Les jeunes Français affronteront l'Espagne. Ce mardi, les Espagnols se sont inclinés 0-1 face aux jeunes Algériens dans l'autre rencontre du groupe. La Grèce a empêché plus de 1000 migrants venant de Turquie de débarquer sur ses îles. Athènes accuse Ankara d'avoir tenté d'envoyer durant les 3 derniers jours sur les îles grecques en mer Égée près de 1130 candidats à l'exil. C'est ce qu'indique le ministre grec de la marine marchande et de la politique insulaire. Israël a annoncé vouloir lever la suspension de l'augmentation du nombre de permis d'entrée sur son territoire accordé aux Palestiniens de Gaza. Le pays a prévu d'augmenter de 2000 le nombre de permis pour atteindre un total de 14 000 par jour. La bande de Gaza qui vit sous blocus israélien depuis 15 ans. Ziad Medouk, directeur du département de français à l'université Al-Aqsa de Gaza et coordinateur du centre de la paix de Gaza, revient sur cette annonce et sur les conséquences de ce blocus.
Cette décision israélienne, c'est une décision arbitraire. Et donc, elle est prise fin juin 2022, donc 15 ans après le début du blocus israélien inhumain, imposé d'une façon illégale contre les civils de Gaza en juin 2007. Donc 15 ans de blocus, 15 ans de fermeture de frontières et des passages, 15 ans de interdiction des patients et des malades d'aller se soigner dans les hôpitaux israéliens et en Cisjordanie, 15 ans de liste de 120 produits qui ne peuvent pas entrer la bande de Gaza par ordre militaire israélien, 15 ans de coupure d'électricité, donc des conséquences économiques et sociales très difficiles sur 2 200 000 Palestiniens de Gaza qui souffrent de ce blocus israélien inhumain. Avant le blocus, il y avait 120 000 ouvriers et travailleurs palestiniens qui travaillaient en Israël. Actuellement, il y a 9 000. Donc même s'il y a une décision israélienne d'augmenter le nombre de 5 000, ça ne suffit pas. Et même ces décisions ne sont pas appliquées, et surtout, il revient toujours aux autorités israéliennes de limiter donc le déplacement des travailleurs et des ouvriers palestiniens qui travaillent dans les colonies et dans les territoires israéliens. Je pense que cette nouvelle décision, c'est une décision arbitraire. Je pense que la communauté internationale, elle doit assumer sa responsabilité, doit imposer donc aux Israéliens de lever le blocus d'une part, d'ouvrir les passages et surtout de permettre à plus de 100 000 Palestiniens de Gaza d'aller travailler parce que donner la permission à 9 000 Palestiniens, c'est insuffisant. Je pense que pour que l'économie palestinienne se redresse un peu, il faut au minimum 100 000 Palestiniens qui travaillent.
Suite à cette annonce d'Israël d'augmenter le nombre de permis d'entrée pour les Palestiniens de Gaza, vous mettez en lumière les conséquences du blocus israélien aujourd'hui pour les Gazaouis.
Il y a un blocus imposé depuis 15 ans avec des conséquences dramatiques. Il y a un autre exemple, il y a plus de presque 100 Palestiniens qui sont décédés à cause de ce blocus, notamment les enfants, parce qu'ils n'ont pas l'autorisation soit d'aller se soigner, soit ne pas donner l'autorisation à un accompagnant pour accompagner l'enfant, la patiente. Donc on a des conséquences dramatiques, on a vu avec la crise sanitaire, avec le Covid, comment les autorités israéliennes ont interdit l'entrée des masques, l'entrée des produits sanitaires donc dans l'enclave palestinienne. Donc je pense que chaque événement, il y a des conséquences dramatiques sur la population. C'est toujours la population civile qui paye les conséquences de ces décisions arbitraires, sans oublier qu'en dehors de ce blocus, chaque fête juive, chaque événement, même quand les factions lancent des roquettes, les Israéliens, automatiquement, ils ferment les frontières pour 2 jours, voire une semaine. Et bien sûr, priver les Palestiniens de l'électricité, priver les Palestiniens des produits alimentaires, priver les Palestiniens des médicaments qui entrent par le seul passage, Kerem Shalom, qui se trouve au sud de la bande de Gaza, qui est ouvert 5 jours par semaine et souvent il est fermé par ordre militaire israélien. Même le nombre de camions qui entrent la bande de Gaza, avant le blocus, il y avait 1300 camions qui entraient par ce passage, par les 5 passages. Aujourd'hui, il y a un seul passage avec 200 à 250 camions qui entrent. Et la majorité des camions entrent pour les projets humanitaires comme l'UNRWA ou pour les écoles. Mais pour les projets de reconstruction, il n'y a pas de matériel. Donc, pour vous donner un exemple, que même les maisons détruites par l'offensive militaire israélienne de 2014, je ne parle pas de 2021, de mai 2021, il y a toujours des maisons qui ne sont pas reconstruites parce que les matériaux de reconstruction et de construction ne rentrent pas par ordre militaire israélien. Et donc, imaginez des Palestiniens depuis 8 ans, depuis l'offensive de 2014, ils vivent sans abri, ils vivent dans des habitations non habitées, dans des conditions très difficiles avec l'hiver, avec l'été. Donc, la situation est très dramatique pour les Palestiniens de Gaza. Le blocus, il a des effets très désastreux et des négatifs sur les Palestiniens de Gaza. Je pense ici qu'il y a une responsabilité de la communauté internationale d'intervenir auprès des autorités israéliennes pour lever le blocus, parce que le blocus il est illégal par rapport au droit international, et le blocus il est inhumain et avec des conséquences économiques et sociales et psychologiques très graves sur plus de 2 millions de Palestiniens qui vivent dans l'enclave palestinienne.
Vous évoquiez les travaux de l'UNRWA. Comment se déroule-t-il aujourd'hui?
L'UNRWA, c'est le Bureau des Nations Unies pour le réfugié palestinien, donc parce que 70% des Palestiniens de Gaza sont des réfugiés. Ils vivent dans 7 camps de réfugiés de nord au sud de la bande de Gaza. Et donc l'UNRWA, il s'occupe de 2 secteurs rivaux, la santé et l'éducation. Donc il y a des écoles primaires et des collèges donc soutenus par l'UNRWA, par le Bureau pour les réfugiés. Et il y a des cliniques, il y a des centres médicaux tenus par cet organisme international. Mais le problème, que cet organisme, il souffre de manque de financement parce que depuis 2017, avec l'arrivée de Trump au pouvoir aux États-Unis, il a coupé les vivres à cette organisation internationale, et même avec les efforts de l'Europe et de beaucoup de pays. Donc maintenant, l'UNRWA, il travaille seulement avec 75% de ses capacités financières parce que il manque le soutien américain. Donc même après l'arrivée de Joe Biden, il n'y a pas beaucoup de changements.
Ziad Medouk, directeur du département de français à l'université Al-Aqsa de Gaza. Le procès des attentats du 13 novembre 2015 qui ont fait 130 morts à Paris et à Saint-Denis, après 2 semaines consacrées aux plaidoiries de la défense, la parole a été donnée ce lundi matin une toute dernière fois aux accusés. Le verdict est attendu mercredi soir. Le parquet national antiterroriste a requis des peines allant de 5 ans de prison à la réclusion criminelle à perpétuité incompréhensible répressible. Cette peine concerne Salah Abdeslam, seul membre des commandos du 13 novembre encore en vie. L'Espérance de Tunis est sacrée championne de Tunisie, cela pour la 6e année consécutive. À l'issue de la 10e et dernière journée des playoffs de LP1, les Sang et Or ont remporté une victoire décisive sur l'US Ben Gherdan de 2-1. À l'approche du 60e anniversaire de la proclamation de l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet prochain, regard sur un ouvrage de la LN à l'ANP, La construction de l'armée algérienne 1954-1991 aux éditions de la Sorbonne, son auteur Safia Areski.
La Tunisie et le Maroc obtiennent donc leur indépendance en 1956 et très rapidement la LN va installer des bases fixes sur ces territoires qui vont servir d'une part à faire transiter des armes et progressivement à assurer une formation aux combattants de la LN. À partir de 56-57, la France va construire au Maroc la ligne Pédron et en Tunisie les lignes Maurice et Challes qui sont des barrages électrifiés avec des zones minées, etc. pour empêcher les combattants de se rendre en Tunisie, s'approvisionner en armes, etc. Et donc progressivement les frontières vont devenir de plus en plus étanches et les hommes ne vont plus pouvoir retourner sur le territoire algérien. Alors pourquoi la Tunisie plus que le Maroc? C'est lié à l'implantation du mouvement révolutionnaire qui est beaucoup plus présent au départ quand même à l'Est, dans les Aurès, notamment en Kadhimie, etc. Et donc géographiquement, l'Est est bien entendu plus proche de la Tunisie pour aller s'approvisionner en armes et se former.
Safia Areski, auteur de la LN à l'ANP, La construction de l'armée algérienne 1954-1991 aux éditions de la Sorbonne, elle répondait à Loïc Barrière. Fin de cette édition, sachez que Radio Orient est diffusée à Poitiers depuis ce lundi en DAB+, votre radio qui poursuit ainsi l'extension de son réseau à un rythme soutenu. Ce nouveau lancement porte le nombre de zones couvertes par Radio Orient à 34 secteurs en DAB+, et 11 sur la bande FM. Un très grand merci pour votre fidélité. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.